Le cinéma féminin, ça existe de plus en plus. Peu à peu, on voit arriver dans les équipes de cinéma des femmes, des jeunes femmes qui se sont dit « mais le son, ça m'intéresse, il y a des cadreuses, il y a des directrices de photographie ». Ça veut dire qu'il faudra faire face dans très peu de temps à un phénomène complètement naturel. Il y aura peut-être autant de femmes cinéastes que d'hommes cinéastes et qui va s'amplifier.
Go ahead and stare. I'm not ashamed.
Haute, fière, dépravée, venimeuse comme un scorpion, un vampire d'or et d'argent buvant les héritages des fils de famille comme un verre de soda water pour se mettre en appétit. Ces mots sont ceux de Théophile Gautier dans Fortunio, roman paru en 1838, pour évoquer la figure de Musidora, patronyme que choisit Jeanne Roc comme nom de scène. C'est un nom à la puissance évocatrice. Dans Musidora, il y a Muse. Elle en sera une pour les surréalistes qui voient en elle une image de la beauté moderne, mais aussi de la femme héroïque et aventurière. Actrice des feuilletons de Louis Feuillade, Les Vampires et Judex, Musidora fut l'une des premières vedettes féminines du cinéma français. Mais il ne faudrait pas résumer celle qui fut aussi scénariste, réalisatrice, productrice et romancière à ce rôle de vamp. Grande amie de Colette, Musidora fut un symbole d'émancipation féminine. Pour évoquer cette figure du cinéma muet, mise à l'honneur par le Festival international de films de femmes de Créteil, je suis ravie de recevoir sa directrice et fondatrice, Jackie Buet, et Carole Aurouet, co-directrice de l'ouvrage collectif Musidora, qui êtes-vous, paru aux éditions de Grenelle. Bonjour Jackie.
Bonjour.
Alors pourquoi avoir choisi de rendre hommage à Musidora cette année ? Est-ce que c'est parce que vous aviez envie d'évoquer avec elle le cinéma muet, un cinéma qui est peut-être oublié et un peu négligé par rapport aux parlants ?
Oui, alors d'une part, le travail que fait le festival, puisque c'est les 45 ans depuis toutes ces années, c'est de retrouver dans l'histoire du cinéma la place des femmes. Musidora, bizarrement, alors qu'elle a eu un grand succès de son temps, de son vivant, a été oubliée avant-guerre et après-guerre, je pense, notamment par les distributeurs, les grands festivals. On a eu l'occasion, dès les débuts du festival de Créteil, de l'honorer avec quelques-uns des films que nous avions pu retrouver à l'époque. Et là, on a profité récemment de la restauration des films par les deux cinémathèques, Cinémathèque française et Cinémathèque de Toulouse, pour se dire, voilà, 45 ans de festival, une grande figure comme celle de Musidora va nous permettre de montrer, sur le thème de la fabrique de l'émancipation, ce qu'est une personnalité à la fois foisonnante, comme vous venez de le dire, et en même temps très originale, très vivante.
Bonjour Carole Aurouet. Vous êtes enseignante-chercheuse à l'université Gustave Eiffel. Pour commencer, je voudrais vous demander de nous raconter un peu les débuts de Musidora au théâtre et au music hall. Avant d'exploser au cinéma, elle joue dans des comédies de boulevard comme La Môme Miquette ou encore La Loupiote. Est-ce que c'est d'abord sur scène qu'elle commence à se faire un nom ?
Bonjour Esther. Oui, effectivement, vous avez complètement raison. C'est d'abord sur scène qu'elle commence à se faire un nom, puisqu'elle va jouer à partir de l'âge de 19 ans sur beaucoup de scènes, d'abord parisiennes, au Gobelin, à Grenelle, à Montparnasse. Et puis, forte de son succès, en fait, elle va tourner dans toute la France et elle va faire ses classes sur les planches. Mais puisque vous me posez cette question sur les débuts, les planches, le théâtre et aussi le music hall d'ailleurs, ça peut être intéressant de revenir justement à la formation de Musidora et de s'interroger sur le terreau en quelque sorte sur lequel elle a poussé quand elle était enfant. Parce que Musidora, qui est née en 1889 et comme elle aimait bien le préciser, la même année que la Tour Eiffel ou que Charlie Chaplin, ça lui plaisait beaucoup d'être née la même année que Charlie Chaplin, est née dans une famille progressiste, féministe, et très attachée à l'art, avec beaucoup d'art, la musique, mais aussi la couture. Il y a à la fois un côté enseignement, transmission, et puis un côté artistique. Et en fait, elle a d'abord été passionnée quand elle était enfant par le dessin auquel elle a été formée. Et dès l'âge de 8 ans, c'est très amusant parce qu'elle a participé à un concours de dessin assez prestigieux qu'elle a remporté. Dans le jury de ce concours de dessin, il y avait notamment Alphonse Allais. Et Musidora, à 8 ans, a vu ses dessins publiés à la une d'un quotidien, en l'occurrence le journal. Donc évidemment, ça a dû renforcer ses velléités artistiques. Et à l'âge de 12 ans, par exemple, elle a écrit son premier livre qui mélange des dessins et du texte, Les aventures de Bella. Donc ça a été véritablement d'abord sa première passion, mais une passion qui ne l'a jamais quittée d'ailleurs, le dessin, jusqu'à la fin de ses jours. Et puis ensuite, à partir de 12 ans et à l'adolescence, elle a été formée au théâtre, elle a appris l'art de jouer, l'art de dire, et là est née véritablement une vocation de comédienne. Et c'est à partir de 19 ans donc qu'elle monte sur les planches et qu'elle joue et qu'elle tourne dans toute la France, qu'elle fait ses classes, qu'elle apprend aussi à jouer, qu'elle apprend à se servir de son corps comme une arme de séduction, ce qu'on va retrouver évidemment dans le film à épisode de Louis Feuillade, Les Vampires. Et c'est intéressant aussi parce que c'est sur scène que le réalisateur Louis Feuillade, la remarque. Nous sommes alors en avril 1914 et il est dans la salle aux côtés d'Henri Fescourt et il voit Musidora dans la revue galante des Folies Bergères. Alors elle est assez dénudée. Et Feuillade est subjugué par Musidora et il va lui proposer de tourner au cinéma, de rejoindre sa bande d'acteurs. Et Les Vampires ne sera d'ailleurs pas le premier film de Feuillade dans lequel elle jouera, parce qu'elle va jouer dans d'autres films de Feuillade avant et après. Et elle avait quand même eu en 1914 une expérience pour le cinéma dans Les Misères de l'Aiguille, qui est un film du cinéma du peuple, cinéma militant.
Le travail qu'on me demandait était fort simple. J'étais la vampe, première vampe du monde, sous le titre d'Irma Vep, anagramme de vampire. Je n'avais qu'à me laisser tomber d'un toit du 8e étage sur le trottoir une corde à la taille, passer sous un véritable train pourvu de 45 wagons pour le moins, tomber dans une trappe de 2 mètres de haut, bien certainement sur un matelas, recevoir un coup de pistolet chargé à blanc, mais qui blessait néanmoins, sauter d'une auto en marche et me faire écraser sur l'asphalte par une énorme Peugeot, bras et jambes ficelés et sans défense. Tout cela, dirigé par la voix encourageante de Feuillade, teintée d'un léger accent du midi pour me faire croire que c'était une blague, sans doute une galéjade. On risquait sa vie tous les jours, mais on s'amusait. Et on la gagnait, cette vie. Quel prix elle prenait à nos yeux. Oui, j'ai bien fait partie de la belle époque.
Musidora, évidemment, c'est Irma Vep, hein, ce personnage de la série de Louis Feuillade, Les Vampires, avec son collant de soie noire qui moule son corps, ses yeux charbonneux, ses longs cheveux noirs. Elle devient une immense star et un objet de fantasme. Elle est adulée, admirée de tous les spectateurs qui la découvrent sur grand écran, et notamment des surréalistes. Alors, que voit-il en elle au-delà du fantasme? Et deuxième question, est-ce qu'on peut dire qu'elle a été la première star féminine du cinéma français?
Alors, effectivement, quand Musidora apparaît vêtue de son collant de soie noire, alors on a dit que ce collant de soie noire avait été taillé directement sur son corps par le grand couturier Paul Poiret, quand elle apparaît dans le 6e épisode des Vampires, les spectateurs et les spectatrices aussi, d'ailleurs, hein, y a des lettres d'admiratrices, sont absolument subjuguées, marquées au fer rouge, et à partir de là, elle va devenir une véritable vedette, une véritable vampe. Et parmi ces spectateurs très impressionnée, il y a les surréalistes en herbe, au premier rang desquels André Breton, Louis Aragon ou encore Robert Desnos. Breton est tellement sous le choc qu'il ira même jusqu'à aller voir Musidora en 1917 sur scène, à lui lancer des roses et à lui donner une lettre enflammée. Aragon écrira très tôt, dès les années 22, que le personnage d'Irma Vep, interprété par Musidora, avait marqué toute une jeunesse et qu'elle avait été pour eux une révolution érotique, une révélation, pardon, érotique. Donc ils ont été vraiment très très marqués. Alors ce qui les fascine chez Musidora, c'est qu'elle incarne pour eux la femme moderne, la femme libre, la beauté et l'érotisme particulièrement. Et en fait, elle va véritablement enflammer leur corps et leurs esprits, parce qu'elle va devenir une muse pyrogène qui va considérablement les inspirer. Dès 1921, Louis Aragon va écrire un roman qui s'appelle Anicet ou le Panorama, et dans ce roman, il crée un personnage féminin qu'il appelle Mirabelle et qui porte comme surnom Mira, comme Musidora porte comme surnom Musi. Et d'ailleurs, il joue aussi avec Mire, les yeux charbonneux que vous avez évoqués, les yeux qui fascinent. Et c'est un personnage de femme moderne, d'une grande beauté, qui est très inspiré par Musidora. Et pour vous donner un autre exemple un peu de cette influence et du fait qu'elle a véritablement inspiré les surréalistes, Louis Aragon et André Breton ont écrit à quatre mains une pièce pour Musidora en 1928 qui s'appelle Le Trésor des Jésuites. Et c'est amusant aussi parce que le personnage qu'il crée qui s'appelle Matsuri, Matsuri est une anagramme de Musidora, comme Irma Vep est l'anagramme des vampires dans Les Vampires de Louis Feuillade. Donc il y a énormément de clins d'œil. Et puis peut-être un dernier exemple, mais du côté du cinéma, toujours en 1928, Georges Huniez a réalisé un film qui s'appelle La Perle. Et dans La Perle, il y a plein de petites souris d'hôtel en collant noir qui déambulent. Donc autre hommage encore à Musidora.
Est-ce qu'avec ce personnage, on peut dire qu'elle est l'une des premières, si ce n'est la première, femme fatale de l'histoire du cinéma ?
Alors ça, c'est toujours très ambigu, le concept de femme fatale, parce que je ne sais pas qui l'a inventé. Est-ce que c'est parce que l'érotisme de Musidora était tel que le public masculin l'a mis un petit peu en évidence et en icône de la femme désirable, belle, libre, peut-être même d'ailleurs libre au point de leur échapper. Mais ça devient le fantasme. Et je sais que les surréalistes ont beaucoup flashé sur Musidora. Elle-même a construit son icône.
Alors, il ne faudrait pas réduire Musidora à ce rôle d'Irma Vep. Elle a aussi écrit, produit, mis en scène des films. C'est une pionnière parce qu'elle a aussi été la première actrice à passer derrière la caméra, si je ne me trompe pas. Pour quelles raisons souhaite-t-elle mettre en scène ses propres films ?
Musidora a été, oui, vraisemblablement la première actrice, je me méfie toujours parce qu'on pourra en découvrir encore, mais la première actrice à avoir réalisé ses propres films. Alors, pas la première réalisatrice, puisqu'évidemment, ça serait Alice Guy, mais la première actrice réalisatrice. Alors, ce qu'il faut bien comprendre avec Musidora, c'est que d'une part, c'est une femme qui a beaucoup de cordes à son arc. Elle joue au musical, elle est actrice au théâtre, elle fait aussi des imitations de Miss Tinguette ou de Chaplin, elle est écrivaine, elle dessine, elle peint, elle est actrice. Donc il y a cet aspect-là. Et d'autre part, c'est une femme qui a vraiment la liberté chevillée au corps, c'est une femme qui a un tempérament bien trempé, c'est une femme qui n'aime pas qu'on lui dicte ce qu'elle doit faire. Et donc, quand elle a commencé à réaliser, elle s'est retrouvée avec des projets très difficiles à monter, qui ont avorté, ou des projets pour lesquels des hommes ont signé, en fait, le travail qu'elle avait fait. Donc, il y avait quelque chose, évidemment, qui était pour elle insupportable. Et pour gagner sa liberté, pour s'émanciper au niveau cinématographique, elle s'est dit qu'il n'y avait qu'une solution, c'était de créer sa propre maison de production. Et c'est ce qu'elle a fait. Alors, c'est fin 1919, début 1920, elle a créé sa propre maison de production, les films Musidora, pour pouvoir réaliser elle-même ses films. Et elle n'a pas fait que ça, puisqu'elle était scénariste, elle choisissait les œuvres qu'elle voulait adapter, elle était réalisatrice, elle était productrice et elle était actrice. Et en fait, elle a très vite compris que si elle voulait, encore une fois, conquérir cette liberté, il fallait qu'elle fasse œuvre complète. Et c'est la raison pour laquelle elle a créé sa maison de production et elle s'est mise à réaliser.
Alors, on ne peut pas parler de Musidora sans parler évidemment de Colette, dont elle a été très proche, d'abord en tant que lectrice et admiratrice, puis en tant qu'amie proche. D'ailleurs, les premiers films qu'elle réalise sont des adaptations de livres de Colette. Est-ce que l'écrivaine a été un mentor pour elle ? Et est-ce qu'on peut dire qu'elles se ressemblaient d'une certaine manière, chacune dans leur propre voie artistique ?
Alors oui, Colette a été en quelque sorte mentor pour Musidora, mais très peu de temps finalement. C'est-à-dire que Musidora l'a d'abord connue parce qu'elle a lu les Claudine à partir de 1900 et qu'elle a adoré ses livres. Après, elle l'a rencontré, puis d'une manière d'ailleurs assez drôle. C'est-à-dire que Willy, le mari de Colette, était un infatigable coureur de jupons et adorait les jeunes comédiennes. Et vers 1911, il est allé trouver Musidora pour obtenir un rendez-vous galant avec elle. Et Musidora lui a dit, bah, écoutez, moi j'accepte votre rendez-vous, mais à une condition, que vous m'apportiez une lettre d'autorisation de votre femme Colette, parce que je l'admire énormément. Et Musidora a obtenu cette lettre, et c'est comme ça, par l'entremise en fait de Willy, qui a été très rapidement mis de côté, que Musidora et Colette se sont rencontrées. Elles se sont liées d'amitié, et très certainement pas que d'amitié d'ailleurs, et elles ont été inséparables jusqu'à la mort de Colette en 1954. Elles sont même montées, dès 1912, elles sont montées sur scène ensemble au Bataclan. Il y a beaucoup de choses, il y a une correspondance, il y a une grande amitié, il y a un grand respect, et quand Musidora va avoir des velléités littéraires un peu plus affirmées, Colette va l'encourager à écrire, et elle dira même dans une lettre que j'aime beaucoup de 1913, elle dira que Musidora a un joli brin de plume. Donc il y a ce parcours commun. Effectivement, ce sont deux femmes artistes qui ont beaucoup de similitudes dans leur comportement et dans leur choix artistique. Ce sont des femmes qui se battent évidemment pour la liberté de s'exprimer, la liberté de s'exhiber, la liberté de voyager, la liberté d'aimer. Et elles sont en quelque sorte sur la même longueur d'onde toute leur vie.
Je veux faire ce que je veux. Je veux danser nu si le maillot me gêne et humilie ma plastique. Je veux chérir qui m'aime et lui donner tout ce qui est à moi dans le monde. Mon corps rebelle au partage, mon corps si doux et ma liberté.
Au début des années 20, Musidora s'installe en Espagne où elle réalise une série de films historiques, d'aventures et d'amour. Je crois que ce sont ses films les plus aboutis cinématographiquement. En tout cas, c'est considéré comme ses meilleurs films. Mais en même temps, ce sont des échecs financiers parce qu'elle va revenir d'Espagne ruinée et va devoir se reconvertir. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ces films et sur ce court séjour en Espagne et les films qu'elle y réalise ?
Alors, ce court séjour en Espagne et les films qu'elle réalise, bon, sont complètement à l'image de la femme et de l'artiste, hein. C'est-à-dire que c'est tout d'un coup une passion amoureuse aussi qui l'a conduit en Espagne, et une passion artistique pour le cinéma, et elle a envie donc de réaliser ces films. Alors, ces films, il y en a essentiellement quatre. Le premier, Vincenta, en fait, n'est pas parvenu jusqu'à nous, mais on a quelques bribes, quelques fragments, une vingtaine de minutes, donc ce qui nous permet quand même d'avoir ces images. Le deuxième film qu'elle a réalisé est un film qu'elle a également produit pour Don Carlos. Il lui tenait particulièrement à cœur parce que c'est elle personnellement qui est allée trouver Pierre Benoît et qui lui a demandé les droits de son roman pour pouvoir l'adapter. Et elle joue une séductrice, une égérie du mouvement carliste. Donc c'est un film qui était vraiment... qui lui importait beaucoup, mais par contre je trouve que c'est essentiellement son troisième film qui la révèle en quelque sorte comme réalisatrice, en l'occurrence Soleil et Ombre, parce que c'est véritablement son film le plus abouti. On sent une sensibilité documentaire dans les milieux des toreros, et puis il y a une image qui est quand même qui est assez belle, un traitement de l'image qui est assez belle, et puis dedans elle joue deux rôles, puisque c'est l'histoire en fait de deux femmes, une femme blonde et une femme brune, qui sont amoureuses d'un torero, et elle va jouer les deux rôles. Donc ça lui donne aussi au niveau du jeu quelque chose de très intéressant, de presque un peu dichotomique. Donc c'est un film assez abouti et que je trouve le plus réussi. Et puis il en restera un, La Terre des Taureaux en 1924. Bon, après, effectivement, à l'exception de Soleil et Ombre, on peut discuter son originalité au niveau de la mise en scène. Mais il y a une sensibilité, il y a un engagement, il y a une passion. Effectivement, il n'y a pas eu une distribution extrêmement grande, une diffusion extrêmement grande de ces films. Et Musidora, pourtant tellement passionnée, ben, s'est retrouvée effectivement ruinée par ses productions cinématographiques.
Ce sont de très très beaux films en noir et blanc, muets, qui ont eu donc par restauration des cinémathèques françaises à Paris et Toulouse, une seconde vie formidable. Donc on va les redécouvrir à Créteil cette année. Et pour parler de la séance tout à fait animée qu'elle a souhaité créer à l'époque, moi j'appelle ça du cinéma augmenté. C'est-à-dire qu'on va reprendre d'ailleurs la formule à Créteil. Il y aura le film, La Tierra de los Toros, avec des interruptions musicales et jouées en live. Et pour moi, c'est une aventure qui synthétise tous les arts que Musidora a pu développer, c'est-à-dire comédienne, chanteuse, actrice.
Alors, une autre grande figure du cinéma muet à avoir évoluer quasiment en même temps, c'est bien sûr Alice Guy, mais il me semble que Musidora arrive chez Léon Gaumont pour travailler avec Louis Feuillade au moment où Alice Guy part aux États-Unis. Donc en fait, j'ai l'impression qu'elles se sont ratées. Mais est-ce que vous savez si elles se sont croisées, si elles se sont connues, et si oui, quels ont été leurs liens? Et sinon, y a-t-il des similitudes dans leur parcours?
Alors Alice Guy est un peu plus âgée que Musidora. Elles ont 16 ans d'écart. Et en fait, quand Alice Guy part aux États-Unis à partir de 1907, Musidora est encore jeune et n'est pas encore dans le milieu du cinématographe. Par contre, je pense qu'elle a d'abord entendu parler d'Alice Guy, très probablement via Louis Feuillade. Parce qu'en fait, Louis Feuillade, qui a le même âge qu'Alice Guy, a travaillé avec Alice Guy chez Gaumont et a, en quelque sorte, pris la place d'Alice Guy quand Alice Guy est partie aux États-Unis. Donc, nul doute que vu les échanges entre Feuillade et Musidora, il a été question d'Alice Guy à maintes reprises. Dans leur parcours, il y a beaucoup de similitudes effectivement, dans le sens où Alice Guy a très vite compris qu'il fallait monter aussi sa maison de production, ce qu'elle a fait en 1910, comme Musidora donc, le fera fin 1919, fin 1920. Donc il y a encore une fois ce goût de la création, ce goût de la liberté chez les deux femmes, même si c'est des femmes au tempérament certainement très différent. Entre les deux, en quelque sorte, puisqu'on a fait un retour un peu chronologique, il y a une autre femme cinéaste très intéressante, et elles sont tellement peu nombreuses qu'il faudrait la citer, qu'on peut placer exactement à mi-chemin entre Alice Guy et Musidora, c'est évidemment Germaine Dulac également, qui elle aussi va éprouver le besoin de monter sa propre maison de production pour pouvoir réaliser ses films en 1916. Donc voilà, on retrouve ces chemins un peu identiques, parce qu'encore une fois, la seule solution qu'elles avaient pour pouvoir s'émanciper et créer librement, c'était d'être autonome et de faire œuvre complète. Donc on retrouve un parcours assez similaire à ce niveau-là. Très honnêtement, je ne sais pas si elles se sont croisées. Je me dis qu'elles se sont peut-être croisées, Alice Guy et Musidora, à partir de 1943, parce qu'à partir de 1943, l'un des cofondateurs de la Cinémathèque française, Henri Langlois, sollicite Musidora pour participer à la commission historique, c'est-à-dire récupérer des archives, récupérer des témoignages pour contribuer à l'histoire du cinéma muet. Donc Musidora se transforme en quelque sorte en historienne et en historienne d'une période qu'elle a vécue. C'est ça qui est formidable. Et bien évidemment, à ce moment-là, elle a convoqué les rares femmes, qu'elles soient réalisatrices ou évidemment plus nombreuses du côté des actrices, pour récolter, recueillir ces témoignages. Donc peut-être se sont-elles croisées à ce moment-là. C'est tout à fait possible, mais j'avoue que je ne le sais pas.
Musidora, qu'on revit ainsi sur l'écran en 1950, avait été, voici 40 ans, l'exemple, sinon le modèle, de toutes les vedettes. Elle fut révélée au public dans le fameux film de Feuillade, Les Vampires, projeté en 1916, et sa silhouette en collant noir fit longtemps rêver les foules. C'est de ce film, où elle traversait les péripéties les plus insensées, que nous est venu le mot « vamp », attribué à une longue lignée de beauté fatale dont Musidora fut la toute première. La figure de Diana Monti de Judex devait consacrer à la fois sa renommée et son talent. Elle dort maintenant dans le petit cimetière de Bois-le-Roi, morte à 68 ans, celle qui fut la première vampe du 7e art. Il reste un nom, Musidora.
En 1975, un groupe de féministes parisiennes, pas que parisiennes, mais enfin en tout cas le collectif était à Paris, s'est créé sous le nom de Musidora. Ce groupe était notamment composé de Nicole Lise Bernheim, de Claire Clouseau, de Françoise Flamand. Elles ont eu la très bonne idée de créer un festival de films de femmes avant nous. Donc on en est totalement les héritières. Et cette filiation-là, je ne voulais pas la rater. Donc Musidora, pour nous, c'est à la fois l'artiste, la réalisatrice, la productrice qu'on connaît ou qu'on ne connaît pas bien et qu'on va mieux connaître. Et puis aussi l'héritage pour les féministes.
Now Shutimagan. Now jump on him. Yeah, with both feet. Jump on him.
Renee, I have heels on. Yeah, I can't jump on him.
No. He's dead. He doesn't feel nothing.
Is it true you'll be shooting a remake of a French silent film?
That is true. I'll be Irma Bepp. Rene Vidal is directing.
Rene is nuts.
He's nuts in a good way.
Il faut avoir peur, là. Moi, j'ai pas eu peur. Okay. Là, l'épisode s'appelle la tête coupée. Alors, il faut voir la tête coupée.
I'm so sick of being the superhero. I don't need a hit. I need a good movie.
Are you gay?
I was, but not anymore. I got bored with gay culture. They're all communists.
How do you handle all the girls around you?
I loved you, and then you cheated on me with Laurie.
Laurie played you like a puppet. She ended up getting what you wanted.
I must have been the last person to find out about you and Herman.
Because you're scary, and you scared me.
Am I that dangerous?
You are Irma Vep for me. So yes, you are dangerous.
This is not my world. Paris, René, Irma Vep.
En 2022, Musidora est revenue sur le devant de la scène. Il y a eu la série d'Olivia Sayas, Irma Vep, diffusée sur HBO, dans laquelle Alicia Vikander joue une actrice américaine qui va reprendre le rôle de Musidora dans un remake des vampires. Il y a eu votre ouvrage collectif, évidemment, Musidora, qui êtes-vous? Et puis il y a aussi une bande dessinée, Musidora, elle était une fois le cinéma. Est-ce que c'est une lumière, tout d'un coup, qui est mise sur Musidora, une figure oubliée pendant tant d'années, ou est-ce que finalement, Musidora, on a toujours continué à parler d'elle et qu'on ne peut pas dire qu'elle a été totalement oubliée, qu'elle est tombée aux oubliettes durant presque 100 ans.
Elle n'est pas tombée aux oubliettes complètement. C'est vrai que quand on regarde aussi un certain nombre de réalisateurs de l'époque du muet, qui étaient de grandes stars à l'époque, ont réalisé beaucoup de films, je pense à Léonce Perret, je pense que pour la plupart des gens, il est tombé dans l'oubli. Donc Musidora a eu en fait un peu un traitement identique. Maintenant, je pense que quand même on la redécouvre, c'est-à-dire qu'elle a été la plupart du temps quand même très cantonnée aux vampires et à son rôle d'actrice, et qu'on découvre d'autres facettes, notamment via des films qui ont été retrouvés ou restaurés. Donc on découvre une Musidora plus complexe, une Musidora scénariste, réalisatrice, productrice. Et puis c'est important aussi parce qu'on ne peut pas compartimenter ses créations. Bah, on redécouvre aussi les textes qu'elle a pu écrire, que ce soit les romans ou la poésie, les dessins qu'elle a pu faire. Et je pense que ça forme vraiment un tout très cohérent pour comprendre l'artiste et la femme, de ne pas séparer ces différents champs. Donc on la redécouvre, et puis elle est sans doute aussi maintenant, elle a une visibilité plus conséquente de la part du grand public, d'un plus grand public, et pas uniquement des spécialistes de l'époque du muet. Et évidemment, la formidable série d'Assayas y contribue fortement.
Merci beaucoup Jackie Bue et Carole Rouet. Je rappelle que votre livre Musidora, qui êtes-vous, que vous avez dirigé avec Marie-Claude Cherki et Laurent Véré, est paru aux éditions de Grenelle. Et la 45e édition du Festival international de films de femmes de Créteil a commencé le 24 mars et aura lieu jusqu'au 2 avril. Avec une programmation magnifique, la projection du documentaire de Julie Bertuccelli sur Jane Campion, des invités comme Rebecca Zlotowski, Colin Serrault, Agnès Jaoui, Lizzie Borden, Margaret von Trotta, un colloque sur la fabrique de l'émancipation et bien sûr un hommage à Musidora avec la projection mercredi 29 mars de La Tierra de los Toros et Pour Don Carlos. On se retrouve la semaine prochaine pour un épisode spécial sur Agnès Jaoui et 5 films sélectionnés par ses soins.